Vous écoutez l'actualité des luttes
comme tous les jours du lundi au vendredi
de 12h30 à 13h30
sur FPP
fréquence Paris Pluriel 106.3. N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur nos petits, avec nos petites idées dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedeslutte.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour, vous êtes bien dans l'actualité des luttes et en cette émission du mercredi 10 juin 2026, nous continuons de traiter de la mobilisation générale qui s'organise en Bolivie depuis maintenant plus d'un mois. Pour cela, nous vous diffusons plusieurs entretiens réalisés cette semaine, notamment avec certains camarades de la vallée de Cochabamba en Bolivie. Ainsi, sans plus attendre, nous vous diffusons un premier interview que nous avons réalisé mercredi 3 juin dernier.
Soberano y ancestral.
Salut Nadia.
Salut, comment ça va?
Ça va.
J'avais envie de faire le point avec toi, puisqu'on en a fait un la semaine dernière, il y a quelques jours en tous les cas.
Ah oui.
Sur ce qui se passe en Bolivie, parce que là ça va très vite, il se passe plein de choses, c'est absolument pas terminé, au contraire même, ça s'organise. Et donc je voulais savoir si tu avais des nouvelles fraîches.
Mais les nouvelles fraîches que nous avons, c'est la réunion qu'il y a eu hier au sommet de l'État, dans lequel les ministres de défense, on ne sait pas s'ils sont en train de les limoger ou s'il a renoncé, car il ne veut pas assumer l'action d'envoyer l'armée violemment pour dégager les blocages. Et là, maintenant, il y a 93 points de blocage avec des renforts chaque 100 mètres pour que ça tient. Mm-hmm. Et la Confédération la centrale ouvrière bolivienne, ben là, elle a été largement dépassée par les bases avec une tentative de négociation qui n'a pas eu lieu.
Alors justement, je voulais juste faire un petit point particulier là-dessus, parce que quand même, dans un premier temps, c'est la COB, qui a donc la centrale syndicale bolivienne, qui a appelé à une grève générale le 1er mai. C'est un peu ce qui a relancé le processus, on va dire, de lutte. Et puis, depuis, elle tente de négocier avec le gouvernement, alors que les comités d'auto-organisation, eux, veulent continuer jusqu'au limogeage du gouvernement. Donc, on en est là aujourd'hui.
Il faut voir que pour comprendre les fonctionnements, parce qu'en fait, c'est très facile de parler ici. Nous avons un très mauvais exemple de syndicalisme en France.
Ouais.
Il faut savoir que la façon dont ça s'organise, et en fait, c'est... Et en Bolivie, il y a des cellules en fait syndicales qui sont mélangées entre l'organisation syndicale et les assemblées des villages,
ouais.
Qui a à chaque fois entre 50 et 90 adhérents,
ok, ouais.
Avec mandat impératif et révocable, dans lesquels la participation dans les responsabilités des dirigeants, ils sont obligatoires pour tout le monde. Et donc du coup, ils sont une culture au préalable sur ce qui est les décisions de la base, qui sont moins spontanéistes que ce que nous, on peut ici concevoir comme une organisation de base. Okay?
Okay.
Ça veut dire que quand la base, elle décide, c'est parce que, en fait, là, par exemple, on entend plusieurs dirigeants, on va dire, qui ne le sont pas tellement, sauf Arguyo, qui a été placé là-haut, et qui parle du fait que c'est la démocratie directe qui prend les relais, dès le système représentatif des organisations syndicales. Donc déjà, une espèce de rébellion de la base. Non, c'est la base qui méconnaît ses propres mandatés qui sont en train d'essayer de négocier.
Okay.
Alors, c'est assez particulier parce que la centrale ouvrière bolivienne, elle est basiquement la grosse, leur grosse force, c'est les mineurs. Et donc, du coup, ils arrivent à les mobiliser et tout, mais les mineurs, ils sont des familles. Ils sont la pression à la maison aussi. Et donc, du coup, là, comme la mobilisation qui était justement amenée par des secteurs très syndicales et tout cela, et qui commence à être débordée par l'organisation plutôt des familles, des communautés et les autoconvocados et les comités, comme tu appelles, des bases auto-organisées.
Ouais. D'accord, ok, parce que bon, là, visiblement, il y a quand même un petit quelque chose qui est en train de se passer justement entre la base et certains autoproclamés représentants des syndicats. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas réappelé à une grève générale des mineurs. Dans certaines mines, ça bosse.
Mais il y a eu des décisions de ce qu'on dit, en fait, là-bas, ça s'appelle des cabildos. Le cabildo, c'est les fédérations d'assemblée. Donc, il y a eu des plénums, des cabildos, des différentes choses qui sont en train de se passer ailleurs, dans lesquelles toute décision de négociation et le titre de la COP, il a été obligé de formellement dire que, qu'il n'y avait pas de possibilité de négociation.
Ok, ok. Alors, bah, écoute, là. Ouais, en tous les cas, là, ce week-end, enfin, le week-end là, du 2-1-2, il y a eu énormément de réunions, justement, enfin, ce que tu appelles, voilà, ces réunions de comité d'auto-organisation. Ouais. Et pour poursuivre, et comme tu le disais au début, là, les blocages se renforcent. Il y a même d'autres professions qui rentrent en grève. Donc, le mouvement, il est en fait en pleine expansion.
Le mouvement, il est en pleine expansion et surtout c'est la société civile qui est en train de s'organiser chaque fois plus. Nettement, quelque chose dont on a du mal, on parle mal, c'est ça fait une semaine qu'il y a une mobilisation des femmes en grève de la faim.
Ah, wow, d'accord.
Une semaine. Et quand il était la question en 2003 en Bolivie, ce qui avait fait plancher beaucoup la balance en dehors des mobilisations, ça a été les mamitas, parce qu'on appelle comme ça les femmes, les mamitas, qui s'étaient mis en grève dans les places, toutes les grand-mères.
Mm-hmm.
Et après, il y a ces appels incessants et de tous les secteurs d'appeler aux conscrits de quitter les armes. Et même actuellement, là, il y a, comme je t'ai dit, les ministres de défense et même l'armée qui est en train de se réunir pour savoir quelle position elles prennent vraiment, parce que la menace de la part du peuple dit: si vous nous réprimez, nous on va y aller vous chercher chez vous, après ça va pas se passer comme cela. Et donc du coup, ça c'est quand même quelque chose, le fait de rappeler au pouvoir tout cela, que même les policiers, que même les types qui sont en train de réprimer et tout cela font partie du peuple et qu'ils peuvent s'exclure complètement du peuple s'ils répriment. Et donc c'est pour cela que les ministres de défense se démissionnent. On l'a limogé parce qu'il a pas, il se sent pas
de prendre la décision de tirer sur le peuple.
Oui, il préfère que ça soit quelqu'un d'autre. Ouais. Ensuite, le président, il est en train d'essayer de lancer des choses, des corruptions pathétiques. Là, il a fait une déclaration dans laquelle il va bitumer l'alto pour améliorer les conditions des gens. Il sait pendant qu'on est en train d'essayer de me virer, mais moi, j'essaie de faire passer des réformes et améliorer les conditions des gens. Alors que dans les différentes assemblées, c'est le pacto qui a été signé avec des bases de différents endroits. Il y a la exigence de la démission du président.
Oui.
La question qui est super intéressante à ce moment-là, c'est le fait de que, en fait, il y a eu des secteurs politiques nettement de la gauche, qui est parlementariste ou des choses comme ça, qui tentent de faire en sorte de faire tomber les présidents à travers une commission sénatoriale qui ferait par référendum faire tomber les gouvernements de façon
institutionnelle,
légale. Et le peuple, il a caissé ce qu'il proposait la COB. entre autres. Et là, ça a été complètement refusé. Ils en parlent et disent, non, maintenant, ce qui a pris la main, c'est la démocratie directe. Nous en voulons se débarrasser de l'ensemble de toute cette classe gouvernante. Et on verra qu'est-ce qu'on va faire. Et donc, du coup, il y est question des réunions qui vont avoir lieu dans la semaine, dans les cours de la semaine qui vient. Et moi, j'ai reçu quelques comptes rendus des assemblées et dans lesquelles il y est question de savoir de quelle façon on va avancer sur la notion d'autogouvernement.
Wow.
Donc, nous sommes devant vraiment un procès révolutionnaire et assez avancé qui a des véritables bases. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de parler de quelques illuminés avec des super idées, et on est en train de parler des les gens qui se disent en fait là c'est trop, et en fait il faut qu'on fasse une grosse arrêt de tout cela pour reprendre nos façons d'organisation traditionnelles, entre autres. Donc du coup il y a aussi les problèmes avec la partie progressiste qui cherche la fameuse démocratie, et c'est les gens de démocratie que les États-Unis veulent partout, quoi.
Et alors du coup j'ai vu aussi que il y a là en ce moment au Pérou il se passe aussi pas mal de trucs, il y a des soulèvements, on va dire, surtout de la jeunesse.
Ce que j'avais dit là le 24 mai quand on en avait parlé, donc ça fait à peu près plus de 10 jours et vous l'avez annoncé, c'est si les mouvements boliviens ils tiennent, il va forcément faire des bébés à une vitesse hallucinante. Et donc du coup, il y a des soulèvements au Pérou à la remise en question aussi, plutôt par la jeunesse, de tout ce qui est en train d'arriver au Pérou, mais aussi au Chili, contre les nouveaux gouvernements chiliens. Et ça a commencé hier. Ça fait répondre là.
Ok.
Parce que ça fait un énorme espoir. Et moi, ça, tu sais, Nadia, ça me fait penser au printemps arabe.
Ouais, il ne faudrait pas que ça se termine comme le printemps arabe.
Il ne faudrait pas que ça se termine comme le printemps arabe, mais bon, on n'a pas la boule, boule magique.
Non.
Et pour les dernières expériences historiques que nous avons, en général, quand les mouvements ils avancent aussi loin, c'est l'étouffement extérieur qui permet l'avancement de la contre-révolution dans l'ensemble, non ?
Ouais,
après,
là,
ce qui est hallucinant, c'est l'efficacité du blocage, avec une décision qui a été prise quand même de laisser des couloirs humanitaires pour faire passer de l'oxygène, trucs de soins, pour les hôpitaux et tout cela.
Ouais.
Mais là, par exemple, quelque chose qui n'était pas en train d'arriver, là, la grève, le même étouffement qui était en train d'arriver à La Paz, qui est la capitale, est en train d'arriver aussi dans des grandes villes comme Sucre, Cochabamba et d'autres endroits dans lesquels commence à manquer la bouffe. Et en fait, là, c'est assez intéressant parce qu'en fait, les paysans, ils revendiquent ça. En fait, ils appellent ça los flojos. Un flojo, c'est les feignants. Ils disent, nous, on travaille, on ne va pas avoir faim. On va manger de la viande sèche et des patates. C'est tous les autres, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ne s'élèvent pas pour faire tourner les pays, qui vont en crever la dalle, et on est prêt à qu'ils crèvent la dalle. Il dit à un moment, ils n'auront même pas la force de soulever un fusil. C'est bon.
C'est une belle image en tous les cas.
C'est une belle image.
Ouais. Et voilà. Une dernière question quand même qui me chiffonne un petit peu, c'est le manque d'informations en France et de soutien. Il n'y a rien qui se passe en France pour soutenir ce mouvement qui est absolument passionnant.
Tu sais, toute la semaine, nous avons sillonné un peu Paris pour voir les comités d'Amérique latine, les différents endroits et tout cela. Évidemment, les gens, ils sont dans une agenda avec la question de la Palestine, avec ce qui se passe en Moyen-Orient, ce qui se passe actuellement dans différents endroits. Tout le monde, il est un peu débordé et par la propre situation, mais aussi parce qu'ils voient ça très loin. Et il y a très du mal à sortir aussi de l'information depuis la Bolivie. On est vraiment en poignée. Et qui sont en train de nous constituer dans un réseau qui va servir à ça, des traductions, des diffusions et tout cela, qui sont en train de faire un boulot pour cela. Et bien là, aujourd'hui, il y aura une action devant
l'ambassade.
L'ambassade, oui, voilà, devant l'ambassade. Déjà pour visibiliser les conflits, et bien là, on laissera la main aux compagnons parisiens. Nous, on continuera notre boulot dans le sud de la France.
Dans le sud de la France. Non, mais c'est comme si, comment dire, on a besoin, nous aussi, en France et en Europe et partout dans le monde, on a besoin d'oxygène, on a besoin de ces expériences gagnantes, ces expériences qui peuvent nous montrer une voie positive, enfin une voie, tu vois, qui fait du bien, quoi, parce que là, dans le paysage mondial c'est actuel...
Moi, je suis dans un état d'excitation pas possible. Les copains, on est à quelques ans comme celui-là, mais parce qu'on les sent dans le cœur. Mm. Après, je pense qu'il y a des choses, c'est que l'information de la Bolivie, elle est noyée dans plein de la surinformation sur des choses. Et il y a un truc que l'école de Francfort avait bien défini qui s'appelle la dysfonction narcotisante. Ça veut dire que les gens, des fois, par consommer l'information, pensent qu'ils participent à des mouvements. Ouais. Et bien, consommer l'information, c'est consommer l'information. Ce n'est pas mettre les mains à la pâte. Hier, on en discutait dans des assemblées qui sont venues à la Bourse des Travail et tout cela. On nous prenait pour des fous parce qu'on est peu pour mobiliser. Mais on nous disait, mais en fait, si une action... Une action ne peut avoir lieu que si on la fait. Mais l'attente, c'est l'attente. Après, autre chose qui est très intéressante, c'est le silence de la gauche et même de la gauche révolutionnaire française.
Ouais.
Sur ces questions, sauf les acharnés, toujours Lambertistes, trotskistes, tout cela qui est un peu aux révolutions permanentes, qui essayent de relayer un peu. En fait, ils sont tous à l'attente de voir quels intérêts ils pourraient avoir dans, par exemple, l'émergence d'un gouvernement de gauche là-bas et tout cela, voir qui c'est qu'ils vont soutenir. Et comment le mouvement, il est très auto-organisé. Et de l'autre côté, là-bas, ils refusent les soutiens des partis politiques des autres pays. Mmh. Ce qui est intéressant parce que s'ils accepteraient les soutiens des Gilets jaunes, ça les met en difficulté. Ça les met en difficulté parce qu'ils sont en train déjà de remettre en question le système représentatif dans lequel, ici, la gauche s'engouffre avec leurs alliances.
Mmh, mmh, mmh. Ok.
Voilà.
Ok. Écoute, merci et bon courage pour la banderole, hein, tout à l'heure, devant l'ambassade.
À tout à l'heure.
Salut. Ouais.
Bisous à tous et à toutes. Merci pour écouter et on fera les points à fur et à mesure.
À très bientôt. Salut.
L'actualité des luttes et ce jusqu'à 13h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Pour continuer de traiter de l'actualité politique et sociale en Bolivie, nous vous diffusons donc maintenant un second entretien réalisé avec des camarades de la vallée de Cochabamba le jeudi 4 juin dernier.
Bonjour!
Ça va bien?
Nous sommes ici ensemble, Christina, Samuel et moi.
Eh, hey, salut tout le monde.
Bonjour Madeleine.
Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît?
Ok, je m'appelle Andrés Frias Canedo, je suis bolivien et je vis à Cochabamba. Et ça, c'est dans le centre du pays. Je suis agronome de formation et titulaire d'un master en développement rural. J'ai fait également partie du collectif Revuelta Malcriada, qui a émergé à la suite du coup d'État de 2019, même par Jeanine Agnès Chávez, avec pour objectif de rendre visible et de dénoncer le racisme, ainsi que les tentatives de retour au modèle néolibéral qui a saigné le pays pendant deux décennies. Nous cherchons également à construire une voie critique, aussi bien dans le secteur urbain que rural, face aux positions conservatrices et fondamentalistes de l'extrême droite bolivienne.
Est-ce que tu peux nous décrire la situation actuelle?
Pour pouvoir décrire la situation actuelle de la Bolivie, il est d'abord nécessaire d'analyser le contexte qui a conduit à la crise que nous traversons aujourd'hui. Le pays vient de sortir d'un mandat gouvernemental marqué par une très mauvaise gestion économique et par de nombreux cas de corruption. Il s'agit du gouvernement de Luis Arce Catacora, qui appartenait initialement au parti de Evo Morales, le MAS. Il était donc considéré comme un dirigeant de gauche, bien qu'en pratique, il a adopté des politiques publiques qui, à bien des égards, s'est rapproché du modèle néolibéral. C'est là ainsi que l'absence de candidats de gauche ou progressistes représente véritablement le secteur populaire, a conduit une partie importante de ces secteurs à chercher des alternatives de centre-droite à la fin du mandat de Arce. Ces facteurs, conjugués au discours anticorruption d'Edmond Lara, actuel vice-président de l'État plurinational de la Bolivie, et à l'identification de classes de secteurs populaires antérieurement liées au MAS, ont permis à l'actuel président du pays, Rodrigo Paz Pereira, de remporter l'élection au premier tour. Au second tour, Paz et Lara ont obtenu 54% du vote national. Cela ne s'expliquait pas parce que le binôme était perçu comme une option viable et prometteuse, mais parce que leur adversaire, le ex-président Tuto Quiroga, était considéré comme une alternative bien pire. Le problème a commencé avec l'arrivée du nouveau gouvernement. Et à peine quelques jours après avoir pris ses fonctions, Paz a écarté l'arrêt des décisions de l'État. Il a de plus sollicité des prêts de plusieurs milliards auprès de différentes institutions financières, dont le FMI, en dépit d'avoir affirmé explicitement durant sa campagne qu'il ne le ferait pas. À cela s'ajoutant la mise à l'agenda national de la privatisation d'entreprises publiques rentables, l'ouverture de l'exploitation des ressources naturelles et stratégiques à des entreprises internationales, ainsi que la réduction des imports pesant sur le patronat bolivien, sans résoudre la charge fiscale qui affectait le secteur populaire. Par ailleurs, en moins de 7 mois, le gouvernement a accumulé de nombreux scandales de corruption, plusieurs d'entre eux liés au narcotrafic. Et il a également importé des leçons de très mauvaise qualité à un prix excessif, causant des dommages à des milliards de véhicules, sans que le gouvernement ait apporté à ce jour une réponse satisfaisante. Tout cela a naturellement engendré le mécontentement d'une grande partie de la population. Cependant, ce qui a véritablement déclenché les mobilisations fut l'approbation de la loi 1720 qui visait à transformer les petites exploitations agricoles en exploitations de taille moyenne. Une mesure perçue comme une menace à la sécurité foncière du paysan bolivien. C'est pour cette raison que des communautés indigènes et paysannes des départements de Pando et Beni ont marché pendant 28 jours jusqu'à La Paz et ont lancé des mobilisations pour exiger l'abrogation de cette loi. Celle-ci a finalement été annulée. Cependant, le Sénat a décidé qu'une nouvelle loi sur cette question devrait être élaborée dans un délai de 60 jours. Le problème reste donc en suspens. Parallèlement à cette mobilisation, différentes organisations indigènes, paysannes, corporatives, magistères, des mineurs, des transporteurs et des ouvriers industriels, principalement sous la conduite de la centrale ouvrière bolivienne et des confédérations syndicales paysannes, ont présenté diverses plateformes revendicatives et ont occupé rue et route du pays jusqu'à ce que leurs demandes soient satisfaites. De manière générale, ces demandes s'articulent autour de points suivants. L'abrogation de la loi 1720, la participation des organisations sociales à l'élaboration des lois relatives à la gestion des ressources stratégiques du pays, la résolution des problèmes découlant de l'importation de combustibles de mauvaise qualité à des prix excessifs, l'obligation que les revenus générés par l'exportation transitent exclusivement par les banques centrales et le rejet de la privatisation des ressources naturelles et de la décentralisation de l'éducation. Il est important de souligner que certaines organisations sont parvenues à des accords avec le gouvernement et ont suspendu la mobilisation. Cependant, la grande majorité de ces accords ont été reniés quelques jours plus tard. De plus, bien que le gouvernement convoque des dialogues avec les différents secteurs en lutte, le président et son cabinet apparaissent simultanément dans des émissions télévisées où ils qualifient les manifestants de violents, sauvages, groupes financiers par le narcotrafic, vandales ou personnes sans aucune autonomie et guidées par Evo Morales. Entre autres termes, méprisants et racistes. Naturellement, ce manque de respect sans précédent ainsi que l'absence de réponse aux demandes populaires ont conduit toutes les organisations à retirer les plateformes revendicatives, à radicaliser leur action de protestation et à exiger la démission de Rodrigo Paz. Aujourd'hui, plus d'un mois s'est écoulé depuis le début du conflit. Plus de 100 points de blocage reste active dans 7 de 9 départements du pays. Cochabamba étant une zone stratégique en raison de son rôle de connexion entre l'Ouest et l'Est bolivien. La situation a déjà un impact critique sur l'approvisionnement en aliments, médicaments et combustibles, notamment dans la ville de La Paz. Par ailleurs, des centaines de personnes ont été blessées ou détenues et l'on dénombrait déjà plus d'une dizaine de mortes. C'est ça.
Ok, très bien. Merci beaucoup. Alors, justement, au sein de ce contexte, comment est-ce que toi, tu participes et tu t'investis dans la mobilisation?
Mon implication dans les mouvements s'est située à plusieurs de niveaux. Et d'un côté, j'ai visité et accompagné le blocage à bord de la ville de Cochabamba. Je participe également aux assemblées et aux espaces de coordination entre organisations et collectifs urbains cochabambinos en soutien au secteur mobilisé. D'un autre côté, Depuis Revuelta Malcriada, nous travaillons sur ce que nous considérons comme tout aussi stratégique, la construction politique, la formation de la conscience et la bataille de récits. Comme je le mentionnais au début, ces collectifs de caractère anticapitaliste, antipatriarcal et antifasciste nés en 2020 dans le contexte post-coup d'État, précisément pour dénoncer le racisme et le retour au néolibéralisme, ainsi que le conservatisme religieux et le fondamentalisme de l'extrême droite. Dans ce cadre, nos formes concrètes d'action en ce moment de conflit comprennent la production et la diffusion de contenus audiovisuels et écrits de dénonciation et d'analyse politique dans le but de contribuer à la construction d'une option critique ainsi que le travail d'articulation avec des autres organisations partageant nos principes. En outre, depuis ma profession, j'ai contribué dans le domaine académique en rendant visible et analysant les revendications de différents secteurs populaires en tant de montrer que ces luttes, bien que s'exprimant de manière différente, partageant une même racine, le rejet du modèle néolibéral et colonial que depuis le gouvernement on cherche à réinstaurer.
Alors, selon toi, qu'est-ce qui peut expliquer la rencontre, la convergence des luttes paysannes et des luttes urbaines dans le contexte de la Bolivie ?
Avant de répondre, je crois qu'il est important d'être honnête sur un point. Nous ne sommes pas face à une convergence pleine et homogène. Ce que nous observons aujourd'hui en Bolivie est plutôt une convergence incomplète, contradictoire et encore en construction, qui reflète les tensions propres à une société profondément inégale, est traversée par des divisions de classe. D'un côté, il est vrai qu'il existe un rapprochement réel entre le secteur paysan et indigène mobilisé et certains secteurs populaires urbains organisés, principalement dans les villes de l'Alto. Cependant, dans d'autres villes comme Cochabamba ou La Paz, cette convergence existe aussi, mais reste bien plus limitée. Les secteurs mentionnés partagent un même rejet de politique néolibérale impulsée par le gouvernement de Paz, la menace de privatisation des entreprises publiques, l'ouverture des ressources naturelles au capital étranger et le endettement auprès des banques et des fonds internationaux, en contradiction avec les promesses de campagne de Paz. C'est le fil conducteur qui unit les personnes mobilisées. La conviction que si ces modèles s'imposent, ses conséquences seront dévastatrices pour les classes populaires. Cependant, il existe également une fracture importante au sein du secteur urbain. Les commerçants, les travailleurs indépendants et de larges secteurs de classe homogène s'opposent au blocage. Leurs arguments contiennent un pack de vérité. Le pack économique sont réels, les pénures affectent des personnes concrètes et les ambulances qui ne peuvent circuler représentent des vies en danger. On ne peut pas ignorer cette réalité. Cependant, c'est que cette position n'est parvenue pas à voir ou ne voulons pas voir. C'est que les conséquences d'une application complète du programme de Paz seront incomparablement plus graves et durables. Les emprunts massifs, les privatisations et la mise de ressources naturelles au service d'intérêts privés ne généreront pas une crise de quelques semaines, mais une crise de plusieurs décennies. Le problème est que ces effets futurs ne affectent pas ceux qui opposent aux mobilisations avec la même immédiateté ni la même intensité, ce qui influence leur position politique. Il faut également ajouter qu'une partie importante des forces opposées au blocage, notamment dans le secteur urbain, est composée de groupes arrivistes avec une position de classe très marquée, des collectifs citoyens issus des classes moyennes qui réclament l'intervention militaire et l'état de siège et qui organise des structures paramilitaires comme la résistance juvénile Cochala. Après le coup d'état de 2019, est aujourd'hui réorganisé sous la consigne de la défense de la démocratie. Ce discours n'a rien d'innocent. En Bolivie, nous avons déjà vécu quelque chose de similaire. Historiquement, la défense de la démocratie a souvent servi de prétexte à la répression du mouvement populaire. La convergence qui existe actuellement est donc réelle, mais partielle. Les secteurs urbains organisés en soutien aux mobilisations existent bel et bien, mais ils restent relativement minoritaires. Le principal défi politique du mouvement consiste précisément à élargir cette base urbaine, à disputer le récit dans les villes et à montrer aux classes moyennes que leur avenir est également en jeu. Même si elles ne perçoivent pas encore directement les effets. Mmh. J'aimerais apporter un élément au débat. D'analyse. J'aimerais que, pour comprendre un peu les sociologies et les compositions sociales en Bolivie, c'est important de pouvoir différencier la population informelle, travailleurs informels urbaine, de ce qu'on peut appeler la classe moyenne. On va prendre un exemple en se basant sur une très belle métaphore française, la banlieue influence Paname, Paname influence le monde. Il y a une banlieue de La Paz qui s'appelle El Alto. El Alto, c'est vraiment la ville symbolique de ce travailleur informel, de ces travailleuses informelles, de ce travail familial. Bien sûr, avec des exploitations intérieures, parfois on peut être encore plus exploité par son beau-père que par un patron. Mais il y a toute cette complexité-là. Et il y a quelque chose d'autre, on pourrait dire, qui serait la classe moyenne, qui correspond plus à des emplois plus formels ou plus rémunérés. Et je pense qu'il faut faire cette différenciation-là. Si on prend, par exemple, si on transite de l'exemple de El Alto, La Paz, à l'analyse d'une ville comme celle de Cochabamba, on va voir que les organisations, entre guillemets, qui représentent ces secteurs informels, ça va plus souvent passer par la territorialité. C'est-à-dire que ça va être les organisations territoriales de base des quartiers populaires, en l'occurrence à Cochabamba, les quartiers sud, qui vont s'impliquer aussi dans la mobilisation. Même si peut-être ça n'a pas eu la forme ou la dynamique que ça a pu avoir à El Alto ou dans les secteurs paysans. Ce serait un élément. Aussi pour rajouter qu'il y a, comme ça a été dit, justement des hésitations de beaucoup de secteurs. On pourrait penser par exemple à Cochabamba, dans la vallée de Cochabamba, même dans le secteur agricole, par exemple, la fédération des irrigueurs, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, la fédération de ceux qui irriguent, de los regantes, pour l'instant n'a pas pris position par exemple. Donc il reste encore beaucoup de secteurs urbains qui reste un peu, entre guillemets, entre deux eaux. Et donc, il y a bien sûr les contradictions de classe, il y a bien sûr les classes moyennes qui auraient intérêt à aussi peut-être sortir d'un discours anti-blocage et de s'aligner sur des positions racistes, réactionnaires, qui fragmentent vraiment la lutte. Mais il y a aussi des secteurs qui peuvent aussi encore basculer. Voilà,
Alors là, au vu de la mobilisation actuelle, Quelles sont les perspectives? C'est quoi les enjeux et les difficultés auxquelles la mobilisation doit faire face?
Donc, les défis sont multiples et situés à différents niveaux. Pour les analyser correctement, il est nécessaire de distinguer l'immédiat du structurel, mais aussi de comprendre qui sont les acteurs qui s'opposent au mouvement, car il ne s'agit pas uniquement du gouvernement. Au court terme, la question centrale est de savoir si le mouvement parviendra à maintenir une pression suffisante pour obtenir la démission de Rodrigo Paz. À mon avis, c'est possible, mais rien n'est garanti. Et aujourd'hui, précisément, cette possibilité traverse l'un de ces moments les plus critiques. Le gouvernement a supprimé la loi sur l'état de siège pour en approuver une nouvelle dans laquelle la responsabilité de l'État face aux mortes éventuelles est allégée. Tout indique que cette norme sera approuvée d'ici aujourd'hui au demain et appliquée immédiatement. En Bolivie, nous savons très bien ce que cela signifie en pratique. Nous avons la mémoire de ce que représentent les étages de siège, c'est de bandes de sang. Nous l'avons déjà vécu et pourtant, c'est l'outil que le gouvernement semble choisir pour répondre au mouvement populaire qu'il considère comme un problème de sécurité plutôt que de répondre à ses demandes. Mais pour comprendre pourquoi le gouvernement peut aller jusqu'à de tels extrêmes, il faut observer qui se trouve derrière lui. Les grands médias boliviens sont contrôlés par les secteurs patronaux et l'agro-industrie nationale. Ce ne sont pas des médias indépendants, ce sont aussi des instruments politiques au service d'intérêts économiques et territoriaux très concrets qui ont beaucoup à gagner au maintien de ces modèles. À travers eux, s'est construit de manière systématique un récit destiné à présenter les secteurs mobilisés comme des sauvages ou des violents. Cette image s'appuie sur des faits réels, mais isolés. Des groupes qui lapident des commerces, qui violent ou qui agressent des personnes. Il est vrai que certains individus appartenant à certaines organisations commettent ce type d'actes, mais un fait isolé ne définit pas une organisation et encore moins un mouvement aussi large et divers que celui que nous observons aujourd'hui. Il est également vrai dans des situations de conflit apparaissant souvent de personnes extérieures qui profitent du chaos pour commettre des délits et même des groupes infiltrés dont l'objectif est de discréditer le mouvement populaire. Cependant, ce que font les médias, c'est de prendre tous ces éléments, de les mélanger et de les présenter comme s'ils constituent l'identité même des mouvements dans leur ensemble, effaçant délibérément les revendications politiques légitimes qui sont à l'origine de la mobilisation. Cela nous conduit au défi que je considère le plus profond, la bataille du récit dans les espaces urbains. Le mouvement n'a pas encore réussi à construire une base urbaine solide et ses récits médiatiques est l'une des principales raisons. De nombreux habitants de villes qui n'ont pas nécessairement une lecture politique ou sociale clairement définie finissons par adopter l'interprétation la plus immédiate, car les blocages générant des pénures, les pénures sont un problème, il y a de la violence, donc ceux qui bloquent sont responsables de la situation. C'est que cette lecture ne perçoit pas ce que les conséquences du programme de paix seront incomparablement plus graves et durables en termes de violence, de violation des droits et de pauvreté. C'est là qu'intervient la dimension géopolitique qu'on ne peut pas ignorer. La Bolivie possède les plus grandes réserves de lithium au monde, ainsi que d'immenses réserves de terres rares. Ce n'est pas un détail mineur. Pour de nombreux acteurs internationaux, ces ressources représentent un intérêt stratégique de premier ordre, ce qui explique l'existence de puissants intérêts géopolitiques liés à l'avenir du modèle économique bolivien. Le pouvoir patronal et agro-industriel local n'agit pas de manière isolée. Il s'inscrit dans un ensemble plus large d'alliances et d'intérêts. Cette articulation se manifeste aussi bien dans le champ médiatique que dans le champ politique. Ces acteurs feront tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher que leurs intérêts soient écartés de l'agenda national. La perspective qu'observe aujourd'hui est donc la suivante. Si le mouvement parvient à résister à la répression qui s'annonce, à maintenir sa cohésion et à avancer dans la bataille du récit, ce moment pourrait devenir un véritable point d'inflexion pour la Bolivie. En revanche, si l'état de siège est appliqué avec le niveau de violence malheureusement attendu, et si le mouvement ne parvient pas à répondre avec suffisamment de force politique et communicationnelle, alors il existe un risque d'une défaite très coûteuse, tant en vie humaine qu'une capacité organisationnelle. Cela dit, il y a une question que nous devons également nous poser. Que passe si Rodrigo Paz quitte effectivement le pouvoir? Je pense que ce sera une victoire importante et il ne faut pas les sous-estimer. Démontrer qu'un gouvernement qui trahit le peuple peut être contraint à partir est un soin en fait politique extrêmement important. Mais il sera naïf de penser que la chute de Paz résout le problème de fond. Le modèle n'est pas avec le président. Les patronats privés de l'agro-industrie conserveront le pouvoir économique, médiatique et politique. Les intérêts locaux et géopolitiques sur les réseaux ne disparaissent pas avec une démission. Ce qui est véritablement en jeu, c'est de savoir si ce mouvement parviendra à traduire son énergie en transformation structurelle concrète, un projet de pays à long terme. Et là, oui, je suis optimiste. Ce que nous voyons dans les rues et sur les rues de Bolivie démontre que le peuple n'a perdu ni sa mémoire ni sa capacité à organiser. C'est une force qu'aucun état de siège ne peut éteindre complètement. Et c'est sur cette force que se construisent les véritables changements.
Samy, oui, tu veux rajouter quelque chose?
Moi, ce que je crois, si tu veux, c'est qu'il y a une crise économique fondamentale qui est due, qui est une crise économique cyclique dans les pays périphériques, qui est due que l'exportation, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent et l'importation, c'est cher. C'est-à-dire on exporte du gaz, on importe des iPhones. Et là, il n'y a plus de gaz. Il n'y a pas encore de lithium. C'est-à-dire qu'il y a des contrats de lithium. Et donc, quoi qu'il en soit, il y a une crise économique noire devant nous. Pour l'instant, le dollar a remonté parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui arrivait des prêts. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'on va maintenir un pays à flot. À un moment donné, cet argent qui arrivait des prêts, d'ailleurs, c'est un endettement hein, pour la population, il va être investi, il va être investi dans les secteurs les plus riches, c'est-à-dire dans les secteurs de la mine, de l'agro-industrie, de ceux qui ont déjà de l'argent. Et de toute façon, la crise va continuer malgré cet apport d'argent. Donc, de toute façon, quelque part, la crise politique, on pourrait même dire aujourd'hui la crise d'État, elle est venue rattraper la crise économique. Parce que sinon, c'était la thérapie de choc. C'est le fait que, en plus d'une crise économique qui va durer des années, on en profite pour privatiser tout. Et là, au moins, la population, elle dit, c'est impossible. Et donc, au moins, on ne sait pas où on va, mais on y va. Et on y va en lutte. Et effectivement, il peut y avoir l'état d'urgence, il peut y avoir l'état d'exception, il peut y avoir des massacres, il peut même y avoir des situations regrettables, quoi, que tout le monde veut éviter, que la population en premier veut éviter. Mais ce que a montré la question du coup d'État en 2019, et c'est que on peut tuer des gens, on peut même leur dire ouais, c'est la pandémie, donc c'est le coup d'État, donc encore plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a encore plus de raisons avec à l'époque la pandémie, quoi. Et ben les gens, ils ont dit la pandémie, on s'en fout complètement. Le truc, on s'en fout complètement. Et finalement, ils sont ressortis dans les rues, même si c'était des mois plus tard, et ils ont fait tomber cette putain de dictature. Donc, voilà où on en est, quoi. Yo quiero beber por no recordar esa cruel traición que me hace sufrir. Traigan más cerveza que quiero tomar.
Toujours dans l'actualité des luttes et ce jusqu'à 13h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Pour terminer cette émission autour de la situation politique et sociale en Bolivie, nous vous diffusons donc une dernière prise de parole. En effet, il y a 2 jours, Rodrigo Paz a annoncé la mise en place de l'état d'exception dont vous avez pu entendre parler dans les différents entretiens que nous vous avons diffusés. Nous avons donc demandé à notre camarade Samuel, qui se trouve sur place, de réagir à cette annonce et de nous informer de la manière dont elle avait été entendue et prise en compte par la mobilisation sociale. C'est donc avec sa prise de parole qu'il nous a fait parvenir hier que nous terminerons cette émission.
Du côté du gouvernement, on est rentré dans un processus de militarisation, un processus d'état d'exception. Estado de sitio, le disent. Ils disent comme ça. C'est vraiment, on pourrait dire, le moment où le gouvernement met sous siège, hein, organise un siège contre la société. Déjà, il y a des polémiques, toujours, parce que les juristes fignolent. Et donc, certains disent qu'il n'y a pas encore état d'exception parce que le président n'aurait pas encore signé. D'autres disent en appel à un fonctionnement démocratique et je ne sais pas si c'est vrai ou pas parce qu'il y a beaucoup de brouillard de guerre, on va dire, hein, dans la communication. D'autres disent que peut-être il faudrait qu'avant que cette loi soit promulguée, il faille qu'elle repasse devant la Chambre des députés et la Chambre des sénateurs. Quoi qu'il en soit, cet état d'exception, il existe de fait. Il existe de fait. En quoi consiste l'état d'exception? Eh bien, ça veut dire que les forces de la police, les forces de l'armée, hein, et visiblement peut-être même des forces paramilitaires qui seraient officiellement issus de la société civile, auraient le droit d'agir sans que leurs actes entraînent pour eux des conséquences juridiques. Hein ? Ah, c'est subtil, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu es flic et militaire et si tu tues les gens, il n'y aura pas de procès. Alors pourquoi c'est déjà en cours ? Parce qu'il y a déjà beaucoup de morts, il n'y a pas de procès. Donc on est vraiment dans cette tension-là. Cette tension-là, on va dire qu'elle est paradigmatique. Elle, bien sûr qu'elle est réelle, hein, c'est-à-dire que c'est un grand risque, puisque ça veut dire que les personnes qui vont sans doute mourir dans cette répression, on considère, en tout cas l'État aujourd'hui considère, que ils l'ont cherché. Voilà. Donc ça va beaucoup plus loin. On va dire aussi dans les discours, parce que hier, le ministre de la Défense, dans son discours à la Nation, a dit que, eh bien, tout simplement, les personnes qui demandaient la démission de Rodrigo Paz étaient antidémocratiques et que donc, on allait les arrêter. En quoi ça s'est matérialisé ? En des dizaines et des dizaines d'arrestations de représentants élus, de dirigeants, d'autorités issues de toutes les différentes organisations sociales de la Bolivie. Celles qui sont du monde urbain, les dirigeants de la Confédération ouvrière bolivienne, ceux qui sont du monde rural, donc les autorités et dirigeants de la Confédération syndicale unique des travailleurs paysans, des activistes urbains, journalistes, enfin, tout et n'importe quoi. Donc on arrête et on l'a dit à la télé. Pourquoi ? Parce que voilà, on les soupçonne de demander la démission de Rodrigo Paz. Donc l'état d'exception, c'est quelque chose de vraiment concret. C'est-à-dire que c'est une ouverture à une possibilité de beaucoup de sang. Des morts qui seront exclus du régime de la justice. C'est-à-dire on ne les jugera pas, quoi. On ne jugera pas les assassins. Alors ça, c'est intéressant, le mot n'est pas là, mais c'est paradigmatique de quelque chose. Voilà, on va dire que c'est plus que simplement une situation dramatique. C'est aussi un moment où la structure de l'État n'a plus d'assises, de compromis avec d'assises dans la société ou de compromis avec la société. Et donc on en est à un moment donné où l'ordre juridique des choses, l'ordre légitime des choses, c'est la violence elle-même, la capacité de violence. Donc il faut dire quand même les choses, c'est que cette situation s'est présentée plusieurs fois dans l'histoire bolivienne, et on apprend souvent, en tout cas dans le langage populaire bolivien, que la société, en 1952, elle a vaincu son armée. Elle a vaincu l'armée bolivienne. Et donc, comment prennent les gens cette situation, c'est quand même différent. Même si la loi n'a pas encore été promulguée, au moment où ils commençaient à l'assumer, il y a quelques jours, eh bien, hier, c'est le jour dans lequel la paysannerie de la vallée proche, des vallées proches de la mégalopole de Cochabamba, ont décidé d'entrer dans la danse. Jusque-là, c'était surtout la paysannerie des hauteurs, alentour à la vallée de Cochabamba, qui animait les points de blocage à l'entrée et à la sortie des vallées. Mais depuis hier, la Confédération syndicale unique des différentes vallées de Cochabamba, Capinota, Vinto, Cambuyo, et de la vallée haute, Punata, Cli, Tarata, toutes ces syndicales-là, elles se sont jointes dans une grande marche qui venait de la vallée sud et de Capinota et de la vallée centrale jusqu'à la place de Quillacollo. Donc il y a eu un immense rassemblement. Et ensuite, ils ont voulu établir un point de blocage à la fin de la vallée de Cochabamba en allant vers Capinota. Et là, il y a eu encore une fois l'intervention de paramilitaires coordonnés avec l'armée et la police Ils ont tiré, encore une fois, à balles réelles. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Il y a eu 23 arrêtés. Le point de blocage, finalement, n'a pas été tenu. Mais par contre, la promesse est là. La promesse est qu'un acteur principal du tissu social de la mégalopole, c'est-à-dire sa paysannerie environnante, rentre dans la lutte. Et d'autres secteurs urbains, sans doute, vont suivre. Voilà, donc il faut prendre la mesure des choses, des risques et aussi des opportunités. Voilà. Vive le pacte d'unité ouvrier, paysan, indigène, originaire. Vive la centrale syndicale unique des travailleurs paysans. Vive la centrale ouvrière bolivienne. Vive les organisations territoriales de base. Et ben voilà, Rodrigo Paz va tomber.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.